On va parler donc d'une expo musique de l'histoire des musiques du monde. Et pour cela, nous recevons donc Anne-Laure Lemancel. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur le plateau Attitude.
Merci beaucoup.
Alors du coup, on trouvait beaucoup d'infos sur le site, mais pas forcément sur les expos. Donc on va aller découvrir en fait avec vous cette exposition sur l'histoire des musiques du monde. Ça consiste en quoi?
Alors en fait, c'est plus précis que ça. C'est l'histoire des musiques du monde en France. En fait, je suis vraiment partie sur une sorte d'autre histoire de France par d'autres musiques qui viennent d'ailleurs en fait.
Oui.
Et je trouve que c'est assez politique et assez important en ce moment de montrer qu'en fait il y a une histoire de France qui se fait aussi par cette diversité culturelle.
Et vous, en fait, votre parcours pour présenter cette exposition-là, vous êtes journaliste, c'est bien ça?
Alors moi, je suis journaliste dans la musique, mais pas que, et ça fait plus de 20 ans que je travaille un petit peu sur ces sujets-là, sur les musiques du monde, de façon précise, en fait, on va dire, voilà.
C'est quelque chose comme ça qui était à la base une passion personnelle et qui est devenu un peu un métier, ou ça s'est juste goupillé autrement?
En fait, je voulais être journaliste,
oui.
Journaliste généraliste, mmh. Et puis, en fait, je me suis dit que je m'intéressais pas tant que ça à l'actualité, à la politique.
D'accord.
Et donc j'ai réfléchi à ce à quoi je m'intéressais.
Oui.
Et c'était à la musique que je pratiquais depuis que j'ai 8 ans, quoi. Un gros cursus de conservatoire, puis une maîtrise de musicologie, etc.
Ah oui, donc
et à la base, je voulais travailler en fait dans le jazz.
Oui.
Et finalement, je suis tombée par hasard dans ces musiques du monde. J'avais un petit peu étudié l'ethnomusicologie à la fac, mmh. Et je me suis passionnée pour éditorialement pour ces musiques du monde, pour ce qu'elles racontent en fait, parce qu'elles racontent des choses politiques, spirituelles, sociales en fait. Elles racontent un petit peu le monde entier et c'est absolument passionnant.
Oui, beaucoup de transmission, j'ai l'impression, à travers les textes, qui est un petit peu la continuation de la transmission orale en fait, qui s'est aussi voilà qui est conjointe avec la musique.
C'est souvent des textes beaucoup plus engagés en fait.
Oui, il y a les textes. Bien sûr, il y a cette transmission qui se fait par les textes et aussi par toutes ces musiques qui se sont croisées. En fait, ce qui me passionne, moi je sais que j'ai eu un cours à la fac qui m'a absolument passionné. Ça s'appelait Sociologie des musiques populaires modernes, qui expliquait par exemple comment le reggae était né en Jamaïque et pourquoi, par quel mouvement de population, par quel mouvement politique et sociaux. Et vraiment, ça m'a absolument transcendé. En fait, tout ce que je pensais ne pas aimer, à savoir la géographie,
oui,
et la géopolitique, finalement, c'est revenu par le prisme des musiques.
Ah, c'est le principe des sciences appliquées. Quand on sait où on va, généralement, les sciences deviennent intéressantes.
Et pour conclure, je me suis rendu compte qu'en fait, enfin, pas pour conclure, mais pour poursuivre, en fait, je me suis rendu compte que dans mon métier, en fait, de journaliste, j'avais deux gros pôles. Mmh. Il y a la musique et il y a aussi tout ce qui est territoire. En fait, je suis journaliste randonnée pour Télérama. Je suis journalisme, urbanisme et architecture pour d'autres médias. Voilà. Et en fait, je me rends compte que j'adore la musique par rapport à son territoire. Pour moi, la musique n'est jamais déconnectée de l'endroit où elle est née, de l'endroit où elle s'épanouit et fleurit. Et en fait, j'en ai parlé à un ami qui est géographe et qui lui avait monté un laboratoire de recherche à Rio qui s'appelle Géographie et musique.
Ah bah quand on fait en plus voilà, croiser les savoirs, c'est parfait.
Ouais, ouais.
Et justement, cette implantation de la musique du monde en France, c'est un phénomène que vous avez étudié et dont on peut voir, on va dire, vos travaux sur cette exposition. La musique du monde, c'est vrai que c'est un terme qui est assez large. J'imagine qu'il y a différentes époques influencées par différents endroits du monde. Pas forcément la chronologie, mais comment ça s'est passé en fait?
En fait, moi j'ai pris le parti pour cette exposition parce qu'il y avait des présences de musiques étrangères déjà en France avant la décolonisation. Par
D'accord.
exemple, il y avait pas mal de musique brésilienne qui venait par, on va dire justement, toujours par des mouvements un petit peu politiques ou diplomatiques. Par
oui.
exemple, si les relations diplomatiques sont bonnes entre la France et le Brésil va envoyer peut-être des musiciens, etc. en France. Mais j'ai décidé, moi, de travailler c'était mon choix et mon axe de partir des décolonisations.
Oui.
Et donc là, on voit par exemple que c'est très lié, en fait, cette histoire décoloniale est très liée aux musiques qui ont fleuri en France. Donc en fait, je pars un petit peu d'Idir, etc., des émigrés, de Drahman El Rachi qui a chanté Yaraya, pour parler un petit peu de ces gens qui arrivent en France un petit peu déboussolés et qui retrouvent un sens un petit peu grâce à leur musique.
D'accord.
Et après, je parle par exemple du raï, qui est une musique qui en fait est franco-algérienne. En fait, elle est née à Oran, mais elle a explosé grâce à Paris, grâce au studio d'enregistrement à Paris, grâce à Barbès. Donc on peut vraiment parler d'une musique franco-algérienne. Et on l'a vu par exemple en 1998 avec l'énorme succès
de 1, 2, 3
Soleil. Énorme succès. pareil, en fait, quand on pense musique du monde.
Et je rajoute 1, 2, 3 succès pour les concerts, mais à l'époque, le nombre de CD vendus et achetés, pas forcément par, entre guillemets, les communautés, on était.
C'était énorme.
Entre guillemets encore, de la consommation grand public.
Énorme.
Voilà, c'est ça. Et les radios jouaient les morceaux naturellement.
Oui, Yaraya ou Aïcha, par exemple, c'est des tubes énormissimes.
Bien sûr.
Et il y a quelqu'un que j'avais, il y a des gens que j'avais oubliés, par exemple, aussi en France, qui sont absolument évidents, qui n'ont pas trait à la culture décoloniale, mais c'est des gens qui me l'ont rappelé. Il y a eu les Gypsy Kings.
Absolument.
Voilà, qui est un énorme succès. Et pareil, qu'est-ce que je voulais dire? Pareil, tout ce qui est les musiques créoles. Donc là, on va voir Daniel Waro, qui a fait sa première scène ici à Angoulême. Et Kassav, qui est un des plus grands groupes de France, qui est un des plus gros vendeurs de disques, etc., qui fait partie de cette esthétique. Et qui d'ailleurs a aussi ouvert la voie à plein de jeunes générations. Maintenant, tout le monde se revendique du zouk,
absolument,
etc.
Et si je peux me permettre, l'éclosion des radios libres en 81 a apporté beaucoup de reggae en France, oui, et aussi les musiques du monde, parce que ces musiques-là n'étaient pas jouées par les radios périphériques.
J'en parle complètement dans cet expo, hein, justement. Je parle de tout ce contexte sociétal et social, à savoir l'apparition des radios libres qui fait que ces esthétiques ont enfin droit de citer. Ouais. Également la marche des beurs en 1983,
totalement,
qui accompagne l'éclosion du rail. Donc en fait, c'est vraiment une histoire de France qu'on raconte. Et je viens, enfin je spoil un peu, mais en fait le dernier panneau, c'est en fait j'avais envie de politiquement de dire qu'en fait les musiques du monde n'étaient pas à la marge, elles étaient au cœur même du sujet, mm-hmm, en terminant sur Aya Nakamura, Théodora, oui, et Gims, Dadju, Nino, qui en fait se revendiquent d'un héritage de la rumba.
Et effectivement, c'est que bon, moi je me rappelle des années 80-90 dans lesquelles il y avait, on va dire, popularement un bel engouement pour des, ce qu'on appelait des musiques du monde au sens très très large du terme, et une petite crispation depuis quelques années, ouais, sur ce qui pourrait venir d'ailleurs aussi, ou du moins sur les, c'est même, vous l'avez dit, vous avez parlé du mot politique, certains avis politiques qui sont exprimés, qui sont très 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 vite saqués, on va dire, dans l'opinion publique. Ça fait quand même quelque chose, enfin ça dit quelque chose de notre époque, forcément.
C'est sûr que dans les années 80-90, en fait, les musiques du monde étaient aussi au cœur du propos. On peut voir Manu Dibango avec Soul Makossa, qui a été, oui, un énorme tube,
absolument,
planétaire. On peut voir évidemment Mori Kanté avec Yeke Yeke, Yeke, Yeke,
ouais,
énorme tube. Il y avait aussi, ça j'en ai pas parlé dans mon expo, j'aurais bien aimé, mais c'était pas thématique, mais la Lambada.
Enfin, ah bah oui,
c'était vraiment,
oui,
vrai, énorme, la Lambada.
Et tout ce qui en a découlé.
Et tout ce qui en a découlé. Et je veux dire, maintenant, là, il y a la Lambada, la musique d'Amazonie brésilienne qui reprend un peu droit de cité, mais on a oublié que la Lambada, c'était genre un énorme tube, quoi. C'était fou. Et en fait, j'ai essayé dans cette expo de montrer, d'être assez grand public, même s'il y a des figures moins connues comme Cheikh Harimiti, etc. Mais j'ai essayé d'être hyper grand public pour montrer que ces musiques du monde qu'on a souvent marginalisées ont souvent été en fait au devant de la scène.
Ouais.
Et c'est vrai qu'après, il y a eu une fermeture, mais finalement, il y a une réouverture avec Aya Nakamura, etc., qui sont quand même les plus grands vendeurs de disques, même si c'est pas directement des musiques du monde. Je veux dire, c'est très hérité de cette histoire-là, en fait.
Oui, vous avez parlé de Théodora aussi, qui commence à bien s'implanter, on va dire, oui, musicalement, qui fait pas mal de duos avec beaucoup de gens ouais, aussi connus qu'elle, parce qu'au final, elle a fini par avoir la même gloire qu'eux.
Bien sûr.
Et qui a essayé de prendre des positions politiques récemment, qui ont été très très vite saquées, alors qu'au final, ouais, dans les années 80-90, c'était assez courant et tout le monde trouvait ça plus ou moins normal, en fait.
Après, je trouve que le fait que Aya Nakamura ou Théodora aient pignon sur rue, c'est déjà politique, en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire montrer vraiment une France plurielle, quoi. N'en déplaise aux gens qui voudraient qu'on soit.
Oui, qui sont encore dans un imaginaire
de peau.
Daté.
Voilà, je veux dire, c'est vraiment une France plurielle qui est là et qui est hyper importante.
Et puis il y a ce phénomène typique à Angoulême ici, 50 ans de festival musique métisse, dans une ville qui n'est pas forcément qui n'était pas forcément à la pointe des festivals, voilà, mais qui a su ancrer, et aujourd'hui
j'étais trop
il s'est passé des choses,
j'ai été trop contente, et puis j'ai dû venir sur le festival la première fois en 2005-2006, je l'ai enfin découvert. Et j'ai trouvé ça dingue qu'en fait ce petit bout de Charente en fait accueille le monde entier en fait et soit prescripteur à ce niveau-là.
Deux fois par an en plus.
Deux fois par an, non, mais j'ai trouvé ça assez. Oui, il y a la BD également, mais j'ai trouvé ça assez fou. Et du coup, j'étais un peu jalouse quand même, parce que bon, Limoges, il y avait les francophonies, mais c'était pas si dingue que musique métisse.
Bah, on avait tout à l'heure le fondateur qui nous disait qu'il avait quand même fallu pas mal défricher beaucoup de choses justement pour,
oui,
en arriver là, et que
ouais,
c'était vraiment loin d'être gagné. Ouais.
Voilà. Christian a fait un travail énorme,
ouais,
et un pari énorme, et franchement, on doit le saluer pour ça. Enfin, vraiment gros respect à Christian, quoi.
Oui, parce qu'il y a des gens qui ont été connus ici par, bah, je pense à Johnny Clegg évidemment, qui reste toujours là.
Il y a Johnny Clegg, Cesaria Evora, Keita, Kassab.
Et Kassab, parce que Kassab, c'était l'un des premiers.
Daniel Waro, qu'on va voir là, c'était sa première scène aussi ici.
Cesaria Evora.
Cesaria Evora également, hein. Tout l'océan Indien, Christian les a fait venir ici en France, quoi, enfin à Angoulême. Et c'est vrai que je me dis, moi j'avais fait un film sur Jazz in Marciac où en fait il disait que tous les plus grands noms du jazz étaient venus sur ce petit coin de terre. On peut dire la même chose sur Musique Métis. C'est-à-dire que vraiment c'est une petite ville de province. Et c'est sans, je suis pas du tout méprisante en disant ça, comme je disais, je viens de Limoges. Mais il y a vraiment tous les plus grands de cette sono mondiale qui sont venus et qui sont passés sur les rives de cette Charente.
Où les médias nationaux et quelquefois internationaux se mobilisaient pour rester. À l'époque, le festival durait 4, 5, 6 jours.
Ouais.
Et rester, voilà, je pense
oui,
à RFI.
Il y avait du monde à l'époque.
Je pense à France Inter. Je pense à l'Afrique enchantée en direct.
Bien sûr. Enfin, c'était un gros truc. Donc il faudrait que. Je sais pas quel sera l'avenir de Musique Métis. Mais en tout cas, c'était. Enfin, c'est 50 belles années, quoi.
Cette expo, on peut la voir où, Anne-Laure?
Ben, on peut la voir là, sur le site.
À quel endroit?
Je sais pas comment expliquer, moi, derrière les tentes blanches.
Derrière les tentes blanches, voilà.
En fait, je sais pas comment expliquer.
En arrivant sur la gauche, ouais, ok.
En arrivant sur la gauche, enfin, à fouiller, regarder.
Elle va se balader, cette exposition?
Elle va se balader tout l'été dans plusieurs festivals, je crois le festival de Tau, je crois Ville des Musiques du Monde à l'automne. J'ai pas tout le planning, j'avoue, c'est pas moi qui m'en suis occupée. A priori, elle est prévue aussi dans des instituts français en Afrique. Donc voilà, et sinon on pourra la voir, j'imagine, dans une semaine ou deux sur le site de la SACEM également, en ligne.
Et puis je crois qu'on va pouvoir également découvrir des podcasts.
Des podcasts, oui, 13 podcasts réalisés par Jeanne Lacaille avec des rencontres avec des gens très importants, des grands acteurs des musiques du monde. Voilà, par ma consoeur Jeanne Lacaille.
Ah super. Et pour le reste de vos travaux, est-ce qu'il y a des publications, des choses comme ça dont on peut avoir un petit aperçu? Ou alors est-ce que chaque chose en son temps?
Pour mes travaux à moi?
Oui, vos travaux à vous, oui.
Non, bah écoutez, moi je suis journaliste, donc on peut me lire en musique, principalement sur RFI Musique.
Génial.
Télérama, je fais des randonnées, donc si vous voulez randonner dans le Grand Paris, c'est bien. Mais sinon, j'ai fait un film sur le Maloya, qui s'appelle Maloya, l'esprit des femmes, et qui est toujours visible sur le site de France Télévisions. Donc je vous invite à le regarder, parce que comme je ne l'ai pas fait toute seule, je peux assumer et dire qu'il est super.
Et vous savez danser le Maloya, non?
Vaguement quand même. Hein.
Vaguement.
Je sais en jouer. J'en joue bien mieux que je ne le danse.
C'est vrai.
D'accord.
Oui, voilà. Oui.
Faut essayer quand même. Hein. C'est
de danser,
super
non,
danse.
Mais je peux la danser, mais je suis quand même plus à l'aise derrière les tambours
et
derrière un micro.
Ouais, d'accord.
Voilà. voilà.
Eh ben écoutez, merci. Alors,
merci
on
à
a
vous.
Hâte de découvrir cette expo.
Merci beaucoup. Ben n'hésitez pas à aller la voir. Merci beaucoup.
Merci.